18h passées de 15 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne, le Forum du Studio Kalangou. Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le Studio Kalangou, c'est un rappel, est présent dans 31 localités du Niger à travers un réseau dynamique de radios partenaires. Ces radios partenaires diffusent en direct les programmes du Studio Kalangou. La thématique du Forum de ce soir est le Niger de la COP22 de Marrakech 2016. À aujourd'hui, avancées, obstacles et perspectives. Où en sommes-nous par rapport aux actions d'atténuation des gaz à effet de serre et aux actions d'adaptation au changement climatique? Quelles sont les difficultés auxquelles le Niger fait face en termes de mobilisation de fonds ou de mise en œuvre d'actions pour la lutte contre les effets du changement climatique? Quelles sont les leçons tirées de la COP22 Marrakech 2016? Comment le Niger doit-il se préparer pour la COP23? Pour répondre à ces questions, nous avons fait appel à certains acteurs clés, grands habitués des questions environnementales et des COP. J'ai nommé Sani Ayouba, coordinateur de l'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE. Bonsoir Sani.
Bonsoir.
Et Issa Garba, qui est le coordinateur exécutif de la plateforme de la société civile sur les changements climatiques. Bonsoir Issa.
Bonsoir Alassane.
À noter également que pour un souci d'équilibre, nous avons envoyé des invitations au ministère de l'Environnement et au CNEDD, le Conseil national pour l'environnement et le développement durable, mais à ce jour, nos invitations sont restées sans réponse. À la présentation de cette émission, Alassane Kouzi Mahmoud. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce forum du Studio Kalangou. Je le disais, ce soir nous parlons du Niger, de l'après-COP22 Marrakech 2016. La COP ou la conférence des parties est un rendez-vous annuel rotatif des États parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Un rendez-vous pour faire le point et le suivi des engagements pris par les uns et les autres en ce qui concerne le réchauffement climatique et ses effets. En 2015, un accord historique a été trouvé, c'est l'accord de Paris. Cet accord reconnaît une responsabilité commune mais différenciée des pays du Nord riches et ceux du Sud pauvres dans le réchauffement climatique. L'accord demandait aussi aux États signataires de fournir des efforts pour limiter la hausse de la température de la planète en dessous de 2 degrés Celsius d'ici 2050. Pour que cet accord de Paris rentre en vigueur, il fallait remplir une condition, il doit être ratifié par au moins 55 pays représentant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui fut fait moins d'un an après, précisément le 4 novembre 2016 à Marrakech au Maroc à l'ouverture de la COP22. La COP22, dénommée COP de l'action, visait quant à elle à déterminer les mécanismes de financement des projets de résilience aux effets du changement climatique et l'atténuation des gaz à effet de serre. Lors de cette COP22, le Niger a été représenté par une délégation d'une vingtaine de personnes composée d'acteurs pluridisciplinaires. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Issa Garba, coordinateur exécutif de la plateforme de la société civile sur les changements climatiques. Pouvez-vous nous rappeler les principales activités de suivi qu'il y a eu après la COP22?
Merci, Kouzi, de l'opportunité que tu nous donnes à chaque fois en nous invitant à venir souvent parler des questions qui trait à l'environnement et surtout aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de la question des négociations ou bien des mécanismes de négociation et sur les changements climatiques. Pour rentrer en ce qui concerne ta question, effectivement, le Niger a participé à la 22e conférence des parties sur les changements climatiques qu'on appelait COP 17 ou 18 novembre 2016 qui s'est tenue à Marrakech. Cette conférence, effectivement, il y avait deux conférences. Il y a la conférence en ce qui concerne l'engagement des pays pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est le protocole de Kyoto, qui a sa 12e rencontre. Et il y a aussi la réunion des parties sur l'accord de Paris qui s'est tenue, qu'on appelle la CMA1, qui s'est tenu pour voir les engagements qui sont faits à Paris et pouvoir fixer la feuille de route en ce qui concerne les accords de Paris. Tel est le suivi, ça rentre dans le suivi des accords de Paris. Bon, en ce qui concerne d'abord l'engagement de Kyoto, il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris, surtout en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gaz qui sont de la famille des méthane qui ont été qui sont aujourd'hui, dont les pays ont pris la résolution, une résolution internationale d'interdire d'abord leur utilisation. C'est à l'échelle mondiale. Et c'est plutôt les gaz qui sont plus utilisés dans la climatisation, dans les réfrigérateurs, que ces gaz-là, c'est des gaz fluorescents qu'on a demandé de ne plus utiliser les machines qui nous produisent du froid. Et ça rentre dans l'engagement des pays au respect du protocole de Kyoto. Et il y a aussi l'engagement des pays à réduire considérablement leur émission de gaz à effet de serre en mettant en œuvre des projets qui sont des projets MDP, c'est-à-dire des mécanismes propres, des mécanismes pour un développement propre ou bien des mécanismes qui sont sobres en carbone. Et la deuxième de choses encore en ce qui concerne l'accord de Paris, vraiment, c'est aussi soutenir les pays en voie de développement, des pays tels que le Niger, à pouvoir s'adapter ou bien à pouvoir financer vraiment leur adaptation et surtout aussi, pas seulement leur adaptation, mais surtout aussi à financer des projets qui sont des projets, tout à l'heure que j'ai dit, qui sont des projets sobres en carbone. Même si nous n'avons pas atteint un seuil de développement qui nous amène à un seuil de réduction des gaz à effet de serre, mais il est important que nous ne devrons pas aussi aller vers des mécanismes qui peuvent compromettre aussi aujourd'hui la dégradation du climat. Il est important que nous puissions développer des mécanismes qui sont aussi propres pour que nous aussi, demain, nous ne puissions pas être accusés d'être un pays pollueur. Et ce n'est pas bien pour nous parce que nous, dans tous les cas, nous n'avons pas les moyens de compensation.
Alors, nous allons revenir à vous le temps de donner la parole à Sani Ayouba, qui est le coordinateur de JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Sani, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui après la COP 22. On sait que la COP 22 a été nommée COP de l'action. Est-ce que après la COP 22, on a senti le Niger beaucoup plus dans l'action pour aller vers notamment les énergies propres, pour aller vers la réduction des éléments qui concourent aux gaz à effet de serre et aux activités d'adaptation au changement climatique?
Oui, merci bien. Je pense que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Issa à propos des avancées ou par rapport à une compréhension générale même du contexte actuel dans lequel nous vivons. Pour revenir à la question, je pense que le Niger a comme dans son habitude, continue de faire des efforts. Souvent, c'est lent, souvent, c'est timide. Mais qu'à cela, je pense qu'il y a des efforts à saluer par rapport aux actions entreprises par le Niger dans le cadre du renforcement de la résilience des communautés. Aujourd'hui, on découvre quand même, on constate qu'il y a pas mal de projets ou programmes qui sont proposés, certains sont en cours de financement, certains sont même en cours de mise en œuvre pour renforcer davantage, comme je l'ai dit, la résilience de nos communautés face au choc climatique. Et en plus de cela aussi, après Marrakech, il s'agissait pour les pays de revenir voir, parce que l'Niger fait partie des pays qui ont signé et ratifié l'accord de Paris. Et à Paris, en 2015, le Niger aussi avait soumis ce qu'on appelle actuellement maintenant la contribution nationale au niveau déterminé. Ok, non, la contribution nationale, oui, à l'époque, mais maintenant c'est la contribution déterminée au niveau national. Oui. Qu'est-ce que dit cette contribution? Cette contribution du Niger, c'est l'engagement volontaire du Niger pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et renforcer aussi ses questions d'adaptation. Étant donné qu'on est un pays qui n'émet pas beaucoup de gaz à effet de serre, j'ai pas dit qu'on n'émet pas du tout, mais on n'émet pas beaucoup. Donc, ces documents étaient plus basés sur les questions d'adaptation, les questions de récupération des terres, les questions de ce qu'on appelle l'agriculture intelligente, smart agriculture, et tout ceci. Donc là, cette année, quand même, je pense qu'il y a eu des efforts ou bien des rencontres multi-acteurs pour essayer de voir comment cette stratégie, comment en tout cas développer une stratégie de mise en œuvre ou bien de mobilisation des ressources par rapport à cette contribution déterminée au niveau national. Et je pense qu'il y avait eu même des experts, je pense que ceux d'Expertise France ou je ne sais pas, qui ont aidé quand même à l'élaboration, qui étaient venus ici à Niamey, ils ont rencontré tous les acteurs, que ce soit étatiques et non étatiques, pour voir.
Cette année même en
2017. Oui, cette année, oui. Et après, ils ont fait un rapport synthétique qui est quand même assez volumineux, mais qui donne beaucoup d'informations par rapport à la situation actuelle et puis les efforts qu'il faut faire pour mobiliser davantage des ressources pour mettre en œuvre, parce que le Niger est en train de prioriser. Je pense qu'il y a eu même une priorisation de ce qu'il faut faire dans ce sens. Donc ça, on peut dire à ce niveau que les choses avancent, voilà. Mais peut-être que pas par rapport à l'urgence climatique qu'on constate, ok? Donc je pense que les gens doivent faire plus d'efforts pour vraiment tendre à plus de projets bancables ou des projets approuvés pour financement au grand bénéfice de nos communautés. Ce que je voudrais rajouter, c'est au niveau de la mobilisation des jeunes, parce que nous, en tant que structure de jeunesse active sur ces questions, c'était aussi pour nous l'occasion d'essayer d'analyser un peu, que ce soit sur le plan international et sur le plan national, comment se fait l'implication des jeunes ou bien comment se fait la participation ou l'engagement des jeunes sur ces questions. Donc à ce niveau quand même, on peut dire qu'il y a de plus en plus de jeunes ou bien des structures de jeunesse qui s'intéressent à ces thématiques et qui essaient de mobiliser des financements, que ce soit au niveau national ou au niveau international, pour mettre en œuvre en tout cas des projets d'adaptation, des projets de résilience sur les questions du changement climatique, ce qui est salutaire.
Nous allons revenir à vous, Issa Garba. Et est-ce que au-delà de cet engagement des jeunes dont il a parlé tout à l'heure, est-ce que de l'autre côté, du côté étatique, est-ce qu'on sent cet engagement en tout cas en faveur d'un environnement sain et durable?
Effectivement, il y a l'engagement parce que la question du changement climatique touche tous les secteurs parce que c'est une question qui est aujourd'hui transversale. Il n'y a pas un secteur qui n'est pas touché par ce phénomène de choc, de stress climatique que nous sommes en train de vivre ou bien en train de subir. Il y a effectivement la volonté de l'État à aller vers le financement des projets. Et quand vous prenez aujourd'hui le ministère de l'Environnement, on dit le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Et il y a aussi le CNDD, qui est le Conseil national pour l'environnement et le développement durable, qui est une institution logée au niveau du cabinet du Premier ministre. Avant-hier seulement, vous avez vu, ils ont fait une porte ouverte par rapport à tout ce qu'ils ont eu à faire pendant les 10 dernières années en ce qui concerne la réduction et les projets d'adaptation au changement climatique. Ils ont fait découvrir aux citoyens la mise en œuvre du projet PANA, qui est le plan de qui est un projet qui intervient dans les 6 communes les plus vulnérables. C'est vraiment un projet pilote au niveau des 6 communes les plus vulnérables du pays.
Les plus vulnérables au changement climatique.
Au changement climatique, c'est-à-dire vraiment il y a des critères qui ont été définis pour pouvoir sélectionner dans chaque région, au moins choisir une commune qui est la commune la plus vulnérable. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les communes de convergence où interviennent beaucoup de partenaires. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, mais c'est insuffisant. Et surtout, c'est l'insuffisance des ressources financières pour pouvoir financer ces projets-là. Ce n'est pas les projets qui sont en manque, mais c'est les ressources financières pour pouvoir financer ces projets-là qui causent aujourd'hui énormément de difficultés. Nous avons les compétences en ce qui concerne les ressources humaines, mais il est important aussi que l'accent soit mis sur les jeunes, les former pour que vraiment ils puissent être à jour, surtout en ce qui concerne, tout à l'heure je parlais de ça, ce qui concerne les projets MDP. Parce que nous avons beaucoup de difficultés dans l'élaboration de ces genres de projets-là, qui sont des projets qui sont les plus financés et qui sont les plus bancables.
Sani Ayouba, je reviens à vous. Aujourd'hui, une question qu'on aurait peut-être pu poser au début, il y a peut-être des gens sceptiques qui ne croient pas au changement climatique. Des exemples concrets que vous pouvez donner rapidement de la réalité de ces changements climatiques. On parle de climato-sceptiques, ceux qui n'y croient pas.
Bon, je pense que la question est l'un des plus grands climato-sceptiques qu'on connaît de façon officielle, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Mais récemment, avec tout ce que les États-Unis ont connu en termes de risque de catastrophe, je pense qu'ils sont en train de revoir. Là, on parle même de la possibilité de revenir sur sa décision de vouloir retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on peut constater en tant que Nigériens par rapport aux effets du changement climatique? Déjà cette année, il y a eu les questions des risques de catastrophe avec les inondations, avec les pluies diluviennes. Mais de plus en plus, on constate l'élévation des températures. L'élévation des températures, c'était des choses que les anciens ne connaissent pas trop. Mais aujourd'hui, qu'on est en train, qui devient de plus en plus récurrente également, il y a les sécheresses, que ce soit avant, c'est chaque 10 ans ou chaque 20 ans ou chaque... Mais aujourd'hui, la question, chaque année, on a un déficit alimentaire, il y a la crise alimentaire.
Et pour ce qui est du fleuve du Niger,
il y a, oui,
est-ce que les effets se font sentir?
En dehors de ça aussi, je voudrais revenir, il y a aussi ce qu'on appelle les maladies climato-sensibles. Aujourd'hui, quand on a chaque fois des épidémies de méningite, de rougeole, de choléra, donc c'est accentué également par cet effet de changement climatique. Maintenant, quand on prend aussi le cas du fleuve Niger, il y a plusieurs facteurs. Peut-être qu'avec des études poussées, on peut mettre la relation avec le changement climatique. Mais dans tous les cas, il y a toujours un tout est interdépendant. Mais le fleuve, c'est les questions de pollution, les questions d'ensablement, qui, à mon avis, on peut y remédier à travers des actions citoyennes et à travers aussi des actions de grandes envergures, parce qu'il faut désensabler le fleuve, il faut faire des infrastructures qui puissent permettre à ce qu'il y ait des digues. Je vois déjà avec le projet de gestion des risques de catastrophes qui est en train de faire des digues un peu partout ici au niveau du 5e et du 4e arrondissement communal de la ville de Niamey. Je pense que c'est des actions comme ça, mais les riverains aussi doivent se l'approprier, parce que quand on a fait des études, on voit que tout le bois qui est consommé, la majeure partie du bois consommé ici dans la ville de Niamey ou bien en tout cas dans la région du fleuve provient essentiellement de la vallée du fleuve même. Donc c'est-à-dire que c'est les arbres qui sont censés protéger le fleuve par rapport aux poussières, par rapport au vent, tout ça, qu'on coupe pour faire du bois pour chauffer, alors que d'autres alternatives existent.
Et nous allons avancer. Je voudrais juste noter qu'on sait qu'en marge de la COP22, un sommet africain de l'action sur la coémergence continentale s'est tenu à Marrakech. Une déclaration des participants a même sanctionné ce sommet. Dans cette déclaration, les chefs d'État et de gouvernement africains se sont engagés, entre autres, à consolider leurs engagements respectifs en matière de lutte contre les effets du changement climatique pour donner davantage de cohérence à leur stratégie et avancer ensemble. Elles se sont également engagées à accélérer la réalisation des initiatives déjà identifiées ou lancées en s'appuyant non seulement sur leurs ressources intrinsèques, mais également en mobilisant les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, ainsi que les acteurs non étatiques. Alors, Issa Garba, coordinateur exécutif de la plateforme de la société civile sur les changements climatiques. Quels commentaires faites-vous du respect ou non des engagements pris par les chefs d'État?
Effectivement, il y avait le sommet qu'on appelle le sommet africain de l'action qui s'est tenu à Marrakech, pour lequel les discussions ont été centrées autour de deux thématiques essentielles, à savoir l'Afrique face au changement climatique et pour une Afrique émergente et durable, qui a pris la décision de créer trois commissions au niveau de ce groupe de travail des chefs d'État dédié au changement climatique. Il y a la région du Sahel qui est présidée par le Niger, je peux dire. Il y a les régions du bassin du Congo qui est présidée par la République démocratique du Congo. Il y a aussi les États insulaires présidés par la République des Seychelles. Et il y a l'initiative d'adaptation à l'agriculture au niveau Afrique, ce qu'on appelle les 3A. Parce que ça, agriculture africaine. Donc c'est ça, on l'appelle les 3A, et ça a été lancé au Maroc par 27 pays. Et cela vise à aider les agriculteurs africains à faire face au choc climatique aujourd'hui qui les empêche vraiment, ou bien qui, parce que du fait tout simplement qu'ils n'ont pas les moyens. Et le moins de s'adapter. Donc, ça, vraiment, ça permet, tout à l'heure, Sani a parlé de ce qu'on appelle smart agriculture, c'est-à-dire l'agriculture intelligente, pour pouvoir mettre surtout des pays comme des pays du Sahel qui ont une rareté de ressources en eau à pouvoir au moins développer ce qu'on appelle l'agriculture de goutte à goutte.
Alors, où est-ce que nous en sommes par rapport à ces engagements, notamment sur ces deux domaines dont vous avez parlé?
Oui, en ce qui concerne les engagements, je pense que le Niger, qui préside le groupe Sahel, a tenu au moins deux ou trois réunions. La première réunion qui s'est tenue était sous la présidence même du président de la République en tant que président de ce groupe-là. C'est vraiment la réunion des groupes, la réunion des experts, à laquelle nous-mêmes, en tant que société civile, nous avons participé dans l'organisation. Et ça s'est tenu au Palais du Congrès dans le mois de mai, je crois bien. Et donc, en dehors de ça aussi, les experts se réunissent à chaque fois, chaque trimestre, je crois bien, c'est chaque mois en fonction de leur planning pour pouvoir se rencontrer et discuter par rapport à tout ce qu'il y a qui concerne les questions de changement climatique dans le Sahel.
Cette commission du Sahel a notamment en charge d'un grand projet, notamment la question de la grande muraille verte qui initialement devait avoir une distance de 15 km de large. Mm-hmm. Qui doit aller de Dakar à Djibouti. Sur une distance de 7600 km. Mm-hmm. Elle doit traverser 12 pays. Donc, c'est cette question de la Grande Muraille, en tout cas, fait partie des grands projets que pilote le Niger, notamment dans cette commission créée, Commission du Sahel.
Oui, effectivement, si je ne me trompe pas, le rapporteur même de ce groupe technique, du groupe d'experts techniques, c'est le coordinateur du projet de la Muraille Verte, en l'occurrence le colonel Maïcharo. C'est lui-même qui est rapporteur et c'est lui qui est chargé beaucoup de questions qui concernent vraiment la question de la Muraille Verte. Parce que vraiment, effectivement, le Sahel a mis plus l'exergue sur la question de la Muraille Verte. Parce que la question de la Muraille Verte, depuis que ça a été lancé dans le cadre de l'accord ou bien dans le cadre de la rencontre sahélo-saharienne, parce qu'il faut mettre la Muraille Verte dans son contexte sur lequel ça a été créé. Ouais. C'était créé dans le contexte de pays sahélo-saharien, avec c'est une initiative vraiment du président Kadhafi pour financer ça. Oui. Après la chute de Kadhafi, la Muraille Verte a connu beaucoup de difficultés de financement et de fonctionnement parce qu'il n'y a pas de ressources. Maintenant, on a demandé aux États, les États qui sont les parties prenantes, à prendre en charge au moins le fonctionnement de ces projets-là, le fonctionnement de ce projet, pour que d'ici là, voir quels sont les mécanismes de lever des fonds pour que vraiment le projet puisse être concrétisé. Et les gens ont pensé que dans ce cadre-là, de cet accord panafricain, de cet engagement panafricain, peut-être qu'il y aura beaucoup de levées de fonds et les pays sahéliens sont en train de se battre pour que vraiment ils puissent avoir un fonds qui sera alloué à ce grand projet-là, qui est un projet vraiment ambitieux.
Sani Ayouba, le projet de Grande Muraille Verte, qu'est-ce que cela peut représenter en termes d'avantages pour lutter contre les changements climatiques?
Je pense que c'est un projet qui permettra vraiment, en tout cas à l'Afrique ou bien à cette zone sahélo-saharienne, de pouvoir avoir suffisamment d'espace vert et comme on le dit, d'une grande muraille qui va permettre aussi de séquestrer du carbone. Et au-delà de ça, en termes de changement climatique, nous voyons
cela. Séquestrer du carbone, vous pouvez expliquer?
Séquestrer du carbone, parce que quand on a des arbres, les arbres représentent des puits carbone, parce que les arbres, on dit, l'arbre, il rejette l'oxygène et il garde les COD. Donc, quand on a plus d'arbres, ça veut dire que tous les COD qui est émis au sein de l'atmosphère peuvent être enregistrés, emmagasinés au sein des arbres. Donc, plus d'arbres voudrait dire, même si on émet des gaz à effet de serre, plus du COD, les arbres vont permettre de capturer ça et empêcher à ce que ces COD puissent s'échapper au sein de l'atmosphère.
Et contribuer au réchauffement de
la planète. Donc, voilà un peu l'intérêt d'avoir une grande muraille verte dans cette bande.
À l'image, la muraille verte, c'est à l'image de la ceinture verte que
exactement.
Nous avons
changé. Exactement. Voilà, vraiment, une ceinture verte en grand format, vraiment grand format, comme on dit, grande envergure, mais également ça nous permettra aussi, parce que si on arrive à réaliser ça, ça permettra aux États aussi de vendre ces carbones là qui est stocké, de pouvoir réclamer des fonds au niveau du mécanisme de développement propre ou au niveau du marché carbone, puisqu'il y a un marché carbone qui existe. Si on a le nombre d'hectares, on peut estimer le nombre de carbone qui est séquestré, donc on peut réclamer cet argent ou bien vendre ça. S'il y a des pays qui ont atteint les seuils d'émission et qui veulent émettre plus, on peut également leur vendre une partie des droits d'émission de gaz à effet de serre. En dehors de cela aussi, je vois cela en termes d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Parce que s'il y a une muraille verte, par exemple au Niger, on a déjà pu identifier les communes qui seront traversées. Je pense que la direction en charge de ce programme a beaucoup travaillé. Il y a 2 ans, je pense, on avait fait un atelier d'appropriation de la grande muraille verte au titre de la société civile à Dosso. Donc cet atelier a permis de présenter de façon globale les ambitions de ces projets et les rôles qui peuvent être dévolus en tout cas aux acteurs non étatiques tels que les collectivités, la société civile, etc. Donc je pense que, comme Issa avait eu à les mentionner, c'est juste des questions de moyens qui empêchent à ce que ce projet puisse avancer. Mais l'idéal, c'est que tenant compte des avantages par rapport à ces projets, je pense que les États doivent trouver les moyens de financer cela ou bien d'amener ça au niveau du Fonds vert climat qui est ouvert en termes d'un projet régional ou sous-régional d'adaptation aux effets du changement climatique, en montrant un peu ce mécanisme de séquestration de carbone et pouvoir accéder, même intéresser le secteur privé pour accéder au marché du carbone.
Une autre question, où en sommes-nous par rapport aux avancées enregistrées à ces jours par le Niger en termes de projets justement d'atténuation des gaz à effet de serre et aux actions de résilience?
Je ne suis pas un peu dans le secret des dieux, comme on l'a dit, mais je pense qu'à mon avis, il y a si les CNDD étaient là, ils allaient vraiment nous donner plus d'informations parce qu'ils sont censés, en tout cas, créer cette synergie ou bien répertorier tout ce qui s'est fait au niveau du Niger par rapport à cela. Parce qu'il y a des grands projets qui sont des projets sous la tutelle du CNDD, parce que moi j'étais récemment à une retraite d'évaluation du programme pilote sur la résilience climatique qui est mise en œuvre depuis 2010 sous le financement de la Banque mondiale, qui est un projet aussi de renforcement de la résilience climatique. Donc c'est un projet de 110 millions de dollars depuis 2010, donc qui essaye de soutenir quand même nos communautés sur, à travers les différentes composantes de ce programme. En dehors de ça, comme je le dis, il y a même les projets de gestion des risques de catastrophes qu'on peut citer. Il y a beaucoup d'acteurs qui font soit des actions de façon isolée ou bien des actions en synergie ou en complémentaire avec d'autres acteurs étatiques ou des structures onusiennes, des agences onusiennes ou d'autres. Mais aujourd'hui, c'est le CNDD, à mon avis, qui est assez habilité pour dire concrètement, voilà l'ensemble sur l'ensemble du territoire national, les projets en cours dans le cadre de la résilience climatique. Nous-mêmes, récemment, l'ambassade de France avait lancé un programme pour encourager les structures de la société civile à aider les communautés, surtout les femmes, sur les questions d'adaptation, auxquelles nous avons aussi, notre dossier a été approuvé, sélectionné pour financement. Donc je pense que ces 5 projets qui ont été approuvés dans les domaines, donc tous ces projets-là auront un impact considérable sur les questions environnementales.
Merci, Sani. Issa Garba, par rapport aux actions d'atténuation des gaz à effet de serre, aux questions d'énergie au Niger, qu'est-ce qui a été fait de positif à ces jours et qu'est-ce qui peut aller dans le sens contraire?
Mais merci, Kouzi. Tel que Sani l'a dit, c'est très difficile que nous, en tant qu'acteurs de la société
Je rappelle quand même que nous avons invité, comme je l'ai dit au début, nous avons invité quand même le ministère de l'Environnement et le CNDD, qui est le point focal notamment de la Convention cadre des Nations Unies, qui est le Centre national de l'environnement et du développement durable. Nous les avons invités à prendre part à ces débats. Malheureusement, nous n'avons pas eu de suite. Oui, allez-y.
Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, aujourd'hui, nous prononcer sur les données qui existent réellement et en ce qui concerne la mise en œuvre des projets d'atténuation. Même au niveau de la société civile que nous représentons, nous ne pouvons pas dire que véritablement, mais nous ne pouvons que parler des actions qui sont mises en œuvre par nous-mêmes ou bien par les organisations avec qui nous sommes
vous
en collaboration.
Vous êtes aussi au-delà, vous êtes des observateurs.
Oui, nous sommes des observateurs, mais nous n'avons pas les yeux rivés sur toute l'étendue du territoire. Tout à l'heure, ça nous l'a dit, en ce qui concerne des projets, il y a en dehors du projet de le projet de gestion des risques des catastrophes, il y a des projets, le plus souvent, les projets qui sont là, ce sont des projets pilotes. Mais le Niger doit sortir de ce cadre de projet pilote parce qu'on a beaucoup fait d'expérimentation. Et en ce qui concerne la question d'énergie, parce que c'est deux volets dans ta question, en ce qui concerne l'énergie et les questions d'énergie, ce qui est en train d'être fait ou bien ce qui est fait, je pense que tout dernièrement, ça ne fait pas 2 semaines que le Niger a fait, le gouvernement a pris
un arrêté conjoint
entre le ministère de l'Énergie et le ministère des Finances pour porter une exonération en ce qui concerne tout ce qu'il y a comme matériel solaire qui sera importé vers le Niger. Donc cela est une avancée, cela permettra non seulement aux ménages d'être dépendants, d'avoir une indépendance énergétique, et cela permettra vraiment de développer vraiment les sources d'énergie qui sont les sources d'énergie solaire dans l'économie. Aujourd'hui, les gens ne seront plus obligés d'utiliser l'électricité qui, surtout au Niger aujourd'hui, avec le projet Gorubanda, parce que tu as parlé de l'électrification, pour nous c'est un projet sale. Parce que c'est un projet qui émet de gaz à effet de serre, des tonnes de gaz à effet de serre, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore fait la troisième communication. Je n'ai pas connaissance de la troisième communication nationale, qui est l'inventaire de gaz à effet de serre au niveau national.
Si cela a été donc, fait, on doit,
c'est à partir de là que nous pouvons savoir la quantité des émissions de gaz à effet de serre de Gorubanda. Parce que c'est obligatoire que le Niger puisse mentionner ça dans sa troisième communication. Donc c'est pourquoi nous pensons que le fait d'aller vers les énergies solaires, ça décourage les gens à aller vers des énergies polluantes ou bien aux gens d'acheter des groupes électrogènes qui encore constituent des sources de pollution.
Par rapport à ces projets de Gorubanda, on sait que ça a été inauguré après la COP22.
Oui, après la COP22.
Ce n'est pas un peu contradictoire?
Non, ce n'est pas un peu contradictoire parce que le Niger n'a pas atteint un seuil où on dit que nous avons été un seuil de développement et que nous ne pouvons plus aller vers ces genres de projets. Oui, nous n'avons pas, même si nous n'avons pas atteint ce seuil, est-ce que réellement il n'y a pas d'autre alternative pour aller vers des mécanismes propres?
Et si on vous pose cette question?
Il y en a. Nous avons plusieurs. Nous, ce qu'il faut comprendre, le Niger est un pays catastrophiquement riche. J'ai dit catastrophiquement riche.
En quoi?
En énergie propre. Parce que vous avez, nous avons aujourd'hui l'énergie solaire. Parce que le Niger est le seul pays au monde où le soleil peut être observé à 13 heures en zénith au-dessus de ta tête. C'est le seul pays au monde. C'est pourquoi seul au Niger, vous pouvez observer l'éclipse solaire. Quand il s'agit d'éclipse solaire, vous voyez le monde entier se ruer vers le Niger. Parce que le Niger a une position naturellement stratégique par rapport au soleil. Et vous voyez comment il fait excessivement chaud. Nous ne pouvons même pas, nous n'arrivons même pas à utiliser cette chaleur-là pour donner un potentiel de transformation énergétique. Nous avons le pays où il y a plus d'espace. Parce que les deux tiers sont déserts. Donc, ce qui veut dire que nous avons plus d'espace à installer des photovoltaïques. Et nous avons plus d'espace à mettre des piliers pour développer l'énergie éolienne. Avec tout le sol, tout le vent là qui souffle au nord du pays, vous voyez les sources d'énergie. Et sans compter l'énergie géothermique, parce que le soleil chauffe la terre. Et ça, c'est aussi une source d'exploitation énergétique qu'on peut faire, sans pour autant tenir compte du barrage de Kandaji qui n'est pas encore mis en œuvre.
Bien, nous allons poursuivre ce forum avec la deuxième partie. Nous abordons les éventuels obstacles dans le processus de suivi. Est-ce que le Niger bénéficie-t-il des facilités pour le financement des actions de résilience? Tout à l'heure, vous avez parlé quand même de toutes les initiatives qu'il y a.
Souvent, les difficultés qui sont là, ce sont des difficultés d'ordre technique. Parce que souvent, aussi, le mécanisme est très lourd quand vous prenez, en ce qui concerne le financement, provenant du Fonds vert climat. C'est vraiment, le mécanisme non seulement est très lourd, les projets, c'est-à-dire l'expertise pour l'élaboration des projets, c'est aussi très compliqué. Il faut vraiment une grande capacité. Et souvent, c'est ce que manquent nos pays. Nos pays manquent d'experts en matière d'élaboration et les cabinets, il y a des cabinets qui sont là, qui sont au niveau international, et qui sont au niveau international, qui aujourd'hui, quand on leur demande aussi leur financement, le fait même de les payer, c'est vraiment, quand vous regardez les sommes, c'est vraiment d'autres projets encore. Et quand vous prenez les agences d'exécution des Nations Unies, genre le PNUD, quand le PNUD prélève 12%, de ces projets-là, vous voyez, dans des milliards, vous prenez 12%. Vraiment, c'est aussi des projets dans d'autres communes. Donc, en fait, c'est très difficile. Mais c'est pourquoi, nous, au niveau de la société civile, surtout au niveau de la plateforme de la société civile sur le changement climatique et le développement durable, nous avons fait une proposition, nous avons analysé et fait une proposition à l'État qu'il est important que l'État puisse créer un fonds national qui sera dédié spécifiquement au climat, qu'on appelle le Fonds national climat au Niger. Et ce fonds, c'est à travers la mobilisation des ressources au niveau interne qui nous permettra de faire face au changement climatique. La mobilisation des ressources internes, je vous donne juste quelques exemples de mobilisation des ressources au niveau interne. Vous avez aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons parlé de Gorubanda, qui est un projet polluant. On fait la quantification des gaz à effet de serre émis par Gorubanda et on fait payer la Nigelec par rapport à ça. Parce qu'il y a le principe de ce qu'on appelle le principe de pollueur-payeur. Au niveau international. Et ça doit être, la base doit être au niveau national. Vous avez aujourd'hui des compagnies qui travaillent, par exemple, je prends l'exemple de Air France, qui vient avec son avion au Niger. Mais ils polluent le territoire nigérien. Mais ils n'ont pas le droit de polluer notre territoire. Et par conséquent, ils doivent payer par rapport à leur émission de gaz à effet de serre. Quand vous prenez chaque billet d'avion qui est émis, vous voyez les tonnes de carbone, les tonnes de carbone ou bien la quantité de carbone qui est émis par ce passager-là, par passager, et c'est par passager. Et le billet-là, sur chaque passager, Air France prélève la taxe carbone, ce qu'on appelle la taxe carbone. Mais ça n'a jamais été versé au Niger, alors que c'est le moyen, c'est le moment que le Niger puisse soustraire. Vous avez une 4x4. Le fait que votre droit d'avoir une 4x4 ne vous donne pas le droit aussi de polluer quelqu'un qui a un vélo ou bien un piéton. Donc le fait que vous avez le droit d'acheter la 4x4 qui ne vous donne pas le droit de polluer l'autre, mais il faut que vous payiez pour l'émission de votre gaz à effet de serre. Et donc cela permettra de créer les mécanismes d'adaptation de ces piétons-là. Donc c'est ça le principe et ça fait mobiliser de l'argent. Et l'estimation que nous avons fait, parce que nous avons pris les services et les consultations d'un expert qui a fait une réflexion, ça nous amènera à une mobilisation de plus de 2 milliards, quand vous prenez sans compter de ce qu'on peut avoir avec chaque année, 2 milliards chaque année, et quand vous faites en 10 ans, ça vous fait 20 milliards. Imaginez d'ici 2020, ce qui veut dire que nous n'avons même pas à attendre à ce que les pays développés nous mettent 5 milliards, alors que le besoin de l'Afrique par an couvre à peu près 500 milliards de dollars. Donc vous voyez, si on nous donne 100 milliards, alors que ce ne fait même pas le besoin de la Chine.
Vous faites une proposition, la justice
civile. On a fait une proposition
d'un nouveau mécanisme de financement.
On a fait un avant-projet de loi. On a fait un atelier de validation de l'étude. On a fait un avant-projet de loi qui a été amendé, adopté, que nous avons transmis officiellement au ministre de l'Environnement, qui doit porter ça en conseil de cabinet, en conseil des ministres, et transmis au niveau de l'Assemblée. Et nous pensons que les députés, ou bien le gouvernement et les députés feront un effort pour que vraiment ce fonds-là puisse être créé et que le Niger puisse être doté d'un fonds national qui est vraiment un mécanisme national pour financer les changements climatiques.
Sani Ayouba, ce projet est ambitieux, c'est là ce projet que la société civile nigérienne porte. Avoir un fonds national dédié au financement des activités d'atténuation des gaz à effet de serre.
Oui, effectivement, je pense que c'est un programme, c'est un plaidoyer dans lequel nous sommes vraiment partie prenante. Nous sommes très engagés sur la question. Nous avons suivi tous les processus et nous espérons que le plaidoyer pourra aboutir à ce que les autorités puisse vraiment accompagner cette idée qui sera vraiment une innovation au sein de la sous-région. Et même, ça peut être une proposition que le Niger pourra apporter à la COP23 à Bonn, où il sera éventuellement question en termes d'enjeu de voir comment rendre opérationnel l'accord de Paris, le manuel des procédures, les questions de financement. Donc je pense qu'amener une telle contribution pour le Niger peut être même salutaire et puis peut s'inspirer. Donc il va falloir que nous puissions déjà arriver à un niveau, à un autre stade, pas seulement au stade d'élaboration, mais qu'on puisse adopter les choses pour dire voilà, avant que d'autres ne nous volent cette idée pour aller mettre ça en œuvre et puis se l'approprier à un niveau international
et être cité partout
comme pays qui innove, pays qui ont des gens qui réfléchissent et qui s'engagent aussi pour les questions de développement. Parce que c'est aussi des questions de souveraineté. Si on arrive à dire de façon souveraine, le Niger est capable de mobiliser des fonds propres pour financer les actions de résidence, je pense que les autres partenaires ou d'autres mécanismes au niveau international ne peuvent qu'accompagner ou bien peuvent même s'aligner sur ces modèles. Parce que souvent, c'est là. Si d'autres structures qui ne sont même pas du Niger partent mobiliser de l'argent pour le Niger, bien que leur fonctionnement, comme Issa l'a dit, peut financer d'autres projets encore au niveau de nos communes ou bien au bénéfice de nos communautés. Mais si on a un mécanisme propre, tout financement qui peut arriver peut être aligné au niveau de ces mécanismes et c'est vraiment, il y aura une cagnotte globale pour tout le monde et je pense que c'est plus bénéfique pour nous.
Nous entamons la dernière partie de cette émission, notamment sur les perspectives. Comment le Niger se prépare-t-il pour une COP23 réussie qui sera organisée cette année à Bonn, en Allemagne, en tenant compte des leçons tirées de la COP22? Sani Ayouba, allez-y.
Ok, bon, je pense que déjà, le Niger a déjà mis en place un comité national d'organisation, comme d'habitude. Et c'est un comité multi-acteurs où tout le monde est représenté, société civile, secteur privé, structure étatique, ONG internationale, agence onusienne, je crois. Donc, c'est déjà une bonne chose, le fait que les gens prennent le taureau par les cornes, comme on dit, pour mieux organiser. Mais la question, c'est vraiment les acteurs qui participent au niveau de la mise en œuvre. Donc, les gens peuvent passer des mois à bien préparer, mais au dernier moment, les questions de financement font défaut. Ou bien même au niveau de la COP, je me souviens, l'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup de rencontres
entre les Nigériens
pour mieux organiser la participation. Et surtout, la question de visibilité. Parce qu'on ne peut pas comprendre certains pays qui ne nous dépassent pas en grand chose ou bien qui nous dépassent d'ailleurs en rien. On peut prendre des pavillons ou réserver des places, tout ça, et que nous, on n'a même pas un stand au titre du Niger où on peut valoriser ce que le Niger fait en termes de contribution ou bien d'initiative propre du Niger. Vous voyez, même pour nos officiels qui partent, ils sont obligés souvent pour accueillir des gens ou bien pour négocier. Parce que aussi, c'est vraiment une rencontre multi-acteurs où vous avez des financeurs, vous avez beaucoup de partenaires que vous pouvez interagir. Mais si vous avez vos propres locaux ou bien vous avez votre stand, tout ça, vous pouvez les orienter pour qu'ils viennent connaître davantage ce que vous faites et voir comment développer des stratégies. Donc, je pense que nous devons plus tendre ça. Et même la participation doit être de qualité. Ce n'est vraiment pas, certes, c'est vrai 2 semaines, mais ce n'est pas pour des vacances.
Issa Garba, vous avez pris part à la COP22. Cette question notamment de stand pour le Niger, on a vu que beaucoup de pays disposent quand même de stands, d'autres des pavillons entiers pour des questions de visibilité, pour montrer ce qu'ils font, et des lieux de rencontre aussi pour les ressortissants. J'imagine que vous faites partie du nouveau comité qui a été mis en place, qui est comité préparatoire de la COP23. Est-ce que cette question occupe une place de choix ou occupera une place de choix cette année, que le Niger puisse avoir son propre stand?
Et merci Kouzi. Effectivement, je suis membre, comme Sani l'a dit, il y a un comité national préparatoire de la COP qui chaque année qui se fait, qu'on met en place. Et cette année, je suis rapporteur au titre de la société civile. Je suis rapporteur de ce comité-là au titre de la société civile. Et effectivement, la question du stand ou bien la question du pavillon a été au cœur du débat, mais à la dernière minute, les informations que nous avons reçues, le pavillon seulement fait 30 millions. Et quand nous avons réfléchi pour prendre un pavillon à 30 millions avec tout ce qu'il y a comme accessoire, quand nous avons fait l'évaluation, ça risque de nous coûter à peu près dans les 70 millions. Parce que ça, c'est l'achat de l'espace. Maintenant, les planchers, tout ce qu'il y a comme... Parce qu'il ne s'agit pas aussi de faire un pavillon, juste pour faire un pavillon où les Nigériens vont venir se reposer. Il faut que le pavillon soit animé avec des débats thématiques. Et tout ça là, il faut qu'il y ait une mobilisation un nombre important de Nigériens à cette COP. Alors que cette COP n'a pas aussi d'enjeu qui puisse mobiliser plus d'acteurs. Parce que tout est dans la question de l'enjeu. Aujourd'hui, la COP qui s'organise à Bonn. Ce n'est pas une COP qui est organisée par l'Europe. Donc, ce n'est pas une COP aussi qui est organisée par la République fédérale d'Allemagne. Non, c'est une COP qui est organisée par les îles Fidji qui assure la présidence de cette COP. Mais du moment de c'est organisé en Allemagne parce que c'est là où se trouve le siège de la convention et les îles Fidji n'ont pas la capacité d'accueil, la capacité matérielle pour pouvoir organiser ça. Donc c'est pourquoi le Niger a évacué cette question parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation financière extrêmement difficile pour l'État. Au lieu de jeter 70 millions pour juste une place de 40 mètres carrés, nous avons jugé utile vraiment d'investir ça ailleurs dans des projets qui au moins peuvent soutenir nos communautés et qui sont vulnérables au changement climatique. Les 70 millions, au moins ça peut faire deux puits à des communautés qui sont aujourd'hui en face d'un problème d'eau. Personnellement, je ne souhaite même pas que le Niger puisse avoir juste un stand de 70 millions. Au même moment, nos communautés sont en train de mourir de faim ou bien sont en train de mourir de soif. Ça, personnellement, en tant qu'acteur de la société,
comment le Niger compte alors se faire une visibilité?
Mais la visibilité, il y a des side events qui sont organisés, ce qu'on appelle des side events, c'est-à-dire des événements parallèles qui sont organisés dans lesquels le Niger s'est inscrit. Il y a un événement parallèle qui va être organisé entre le Niger et la francophonie. Il y a un autre événement parallèle qui verra la participation, qui est aussi un multi-acteur. Le Niger a été choisi comme État. Il y a aussi nos amis du Sénégal, qui est une ONG, Enda Energy, qui représentera aussi la société civile au niveau africain. Donc, il y a aussi la question du Sahel, où il y aura encore un side event par rapport aux avancées techniques en ce qui concerne. Donc, là, le Niger, ce n'est pas le stand seulement qui fait la visibilité du Niger. La visibilité du Niger aussi se fera dans la présentation de tout ce qu'il y a comme acquis par rapport à l'environnement.
Vous concluez sur quoi?
Je conclue sur la note que ce que le Niger doit faire prochainement, c'est dans le budget national qu'on puisse vraiment enlever une part importante en ce qui concerne l'organisation et la prise en charge du truc. Le Niger ne doit plus compter sur des partenaires pour mobiliser le pays à aller vers ces genres de conférences. C'est tellement important, les enjeux sont tellement grands qu'aujourd'hui, il est inadmissible qu'on puisse dire que dans le budget national, il n'y a que 5 millions qui est alloué à la préparation et à la participation du Niger à la COP.
5 millions.
Ça, c'est inadmissible, c'est regrettable. 5 millions. Et je dis que c'est honteux pour un pays. Quand on se dit souverain, il faut au moins les dépenses de souveraineté que nous les assumons.
Sani Ayouba, un mot de conclusion?
Moi, je voudrais juste encourager en tout cas, surtout les jeunes à s'intéresser aux questions d'environnement, du développement durable et surtout du changement climatique. Parce que ce qu'on constate lors de ces rencontres internationales, c'est qu'il y a de plus en plus d'expertise qu'il faut développer pour mieux comprendre les enjeux. Mais si vous partez, même si vous partez à 100 et que vous ne maîtrisez pas les enjeux, vous ne comprenez pas les questions, les pays ne peuvent rien en profiter. Et donc, c'est vraiment des domaines aussi, même en termes de consultation, c'est pourvoyeur d'emploi. Les gens peuvent développer des expertises pour mieux analyser des documents, développer des projets, que ce soit pour les Niger ou d'autres pays. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités sur ces questions et j'encourage vivement les jeunes à s'investir, à faire des études poussées pour mieux les comprendre.
Merci à tous. Nous sommes au terme du forum de ce soir sur la préparation du Niger pour la COP23 en tenant compte des leçons tirées de la participation, de sa participation à la COP22 Marrakech 2016. Nous étions en compagnie de Sani Ayouba, coordinateur de l'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Issa Garba, qui est le coordinateur exécutif de la plateforme de la société civile sur les changements climatiques et le développement durable. Merci à vous d'avoir honoré notre invitation. Présentation à Alassane Kouzima Madou, à la technique Ousseini Issaka. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence pour une autre édition.